Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Présenter les intervenants et puis animer la table ronde tout à l'heure. Et peut-être être un peu en perspective, telle que je pense la chose, cette réunion, en attendant que nos amis Stéphane et Philippe arrivent, ils sont devant les grilles au discours. Je voudrais, par rapport à la journée de cet après-midi, évoquer très brièvement trois instruments essentiels à l'activité intellectuelle qui prouvent son caractère social et technique, qu'on oublie assez fréquemment, et sa dépendance à l'écriture aujourd'hui en étroite relation avec Internet. Il s'agit du calcul, du graphique et de la documentation. La documentation, on sait que c'est une sorte d'activité un peu ancienne, forcément orientée vers la technique, et qui retrouve ses lettres de noblesse aujourd'hui avec l'Internet, parce qu'on se rend compte qu'avec les moteurs de recherche, notre manière de travailler, d'appréhender la connaissance est effectivement renouvelée. Donc on a un cas flagrant de choses qui est de l'ordre de l'univers de la technique et qui d'un seul coup nous ramène assez rapidement au niveau de la conceptualisation. Le calcul, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on imagine bien. Le fait que notre pensée soit technique a été clairement mis en évidence avec les premiers usages des ordinateurs. Pensons simplement au tableur, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'instrument qui nous aide à compter et évidemment à réaliser des calculs qui vont s'inscrire dans notre raisonnement. Pour calcul date d'un peu plus longtemps que l'informatique, ça je vous l'accorde, on peut penser par exemple à que faisaient déjà les Égyptiens. Pour le graphique, il me semble que c'est un point qui est assez instructif, parce qu'il apparaît de plus en plus dans les raisonnements aujourd'hui, mais c'est un support des raisonnements qui s'est déjà amplifié à l'époque de la Renaissance et qui s'est confirmé au XIXe siècle. Pensons par exemple aux cartes spéciales qui sont les ancêtres de la mathématique, à la preuve graphique des physiciens qui commençaient à faire des graphes pour vérifier si tel phénomène obéissait ou pas à telle loi, aussi au grand dictionnaire universel de Larousse, et jusqu'à qui regorgeait de planches politiques, qui vraiment l'aspect visuel est excessivement important, jusqu'à une confusion totale avec le raisonnement, me disent mes amis physiciens, quand on voit les diagrammes de Feynman qui permettent d'expliquer clairement la mécanique. Alors, cette importance du graphique, on la voit, et je pense que ça, c'est un effet des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens, après, mais à partir du 19e siècle, à mesure où tout ce qui était de l'ordre du graphique a été peu à peu rabattu vers le texte. Pensons simplement au format SVG, par exemple, qui fait qu'il y a énormément de choses qui étaient de l'ordre de l'image, de l'esthétique, éventuellement de la photo, qui sont textualisées pour être rendues plus facilement manipulables. Et donc là, on voit une importance déterminante du graphique comme opération dans le raisonnement, on peut parler de preuve graphique. Maintenant, je peux enfin saluer la grande perspicacité de Stéphane Lamassé, qui enfin est arrivé, qui a fait le choix d'implémenter la preuve graphique dans les sciences humaines et sociales, qui nous rassemble ici. Je voudrais donc tous nous féliciter de participer à cette dynamique qui est naturellement interdisciplinaire, parce qu'elle montre le lien étroit entre la matière première du raisonnement, le texte, la source, les données, etc., les choses qui se manipulent de manière un peu technique, a priori aisée, qui se manipulent de manière aisée grâce à des outils qui permettent de les combiner, de les agencer, de les mettre en forme, en perspective, tout ça jusqu'à la conceptualisation. Et ce qui me semble assez important, et c'est quelque chose qui va être aussi dans le projet des gens qui vont développer le logiciel d'analyse, c'est d'imaginer qu'on a un schéma épistémologique qui n'est pas binaire, comme on s'en rappelle dans le bon vieux temps, on nous dit d'un côté il y a l'expérience empirique, puis après il y a la théorie, il y a des allées-venues entre les deux. Il est plutôt ternaire, avec un troisième terme qui est la technique, les méthodes, les savoir-faire qui permettent en fait une circulation entre ces trois choses, et à partir de là, que se produit la connaissance et la science. Je vais maintenant commencer par présenter Michel Verdessen, qui est de l'Université catholique de Louvain, qui va nous parler d'une idée, je vais le dire en ces termes, aussi incongrue à mon avis qu'excellente, c'est-à-dire celle qui consiste à imaginer des projections non linéaires des données, de leurs résultats, et un peu comme, je vais trouver ça comme métaphore, comme un objectif grand angle qui forme une scène pour lui donner une cohérence, une perspective enrichissante.
Voilà, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc voilà, il m'a été demandé aujourd'hui de faire un exposé sur un public d'origine et de formation, je pense, un petit peu différente par rapport au sujet dont je vais parler ici. Donc je vais essayer de ménager, je dirais, les attentes un petit peu de tout le monde dans la salle, mais surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'interrompre si ce que je raconte devient incompréhensible. Ce qui est possible, donc vous n'hésitez pas. Alors je vais vous parler de ce qu'on appelle en des termes en fait très mauvais parce que ils sont vraiment pas adéquats, je trouve, ce qu'on appelle le domaine de la projection non linéaire, c'est-à-dire la façon d'aborder la visualisation, en tout cas la projection dans un espace. On verra ça tout à l'heure, mais lorsqu'on parle d'espace de petite dimension, donc 2 ou 3, en fait c'est de la visualisation, la façon dont on peut envisager de la visualisation de données lorsqu'on est face à des grands base de données, à des données qui ont été récoltées dans des domaines qui peuvent être très variés. Comment est-ce qu'on peut envisager la visualisation de ça par des techniques d'abord linéaires, et puis j'essaierai de montrer un petit peu que les techniques linéaires, c'est bien parce que c'est facile, parce que c'est utilisable assez directement, mais ça ne fait pas tout, et il y a moyen de faire mieux, en tout cas mieux, dans un certain nombre d'objectifs, et ça c'est le non linéaire. Alors, donc je vais parler en français, les transparents sont en anglais. Si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas en anglais, vous n'hésitez pas à me le demander non plus, mais je pense qu'il n'y a rien de vraiment très très technique. Donc je vais parler assez longtemps par rapport à mon temps de parole, donc ne vous effrayez pas si c'est disproportionné par rapport à ceci, de la motivation, c'est-à-dire pourquoi il est nécessaire, il est vraiment utile à l'heure actuelle, en 2011, de s'attaquer à des problèmes de visualisation de données, de ce qu'on appelle de haut dimension. Donc quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés. Donc je vais parler de cette motivation, et alors de ce qu'on appelle de nouveau dans des termes un petit peu barbares, la malédiction de la dimensionnalité quand on est face à des données en grande dimension. Et puis c'est seulement après cette grande introduction, je dirais en 2 étapes, que je vais parler un petit peu, mais un petit peu moins, je dirais, des méthodes elles-mêmes. Donc je vais montrer ce qu'il y a moyen de faire, mais je ne vais pas aller très très loin dans des développements mathématiques pour savoir comment le faire. Alors d'abord, quels sont les enjeux? Eh bien, des données en grande dimension, ou plutôt des problèmes d'analyse de données qui se trouvent dans des grandes dimensions, qui sont exprimées en grande dimension, on en rencontre tous les jours. Alors je m'excuse si les données dont je parle ici ne sont pas vraiment les données sur lesquelles vous travaillez, mais j'ai pris des exemples que moi je connais un petit peu mieux, mais je pense que vous allez faire le parallèle assez rapidement. Donc des données en grande dimension, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est à partir du moment où, quand on mesure un phénomène, on a beaucoup de mesures simultanées en général de ce phénomène. Donc on parvient à caractériser quelque chose par énormément de mesures. Alors qu'est-ce que c'est ici? Eh bien c'est une mesure physique, ça s'appelle un spectre infrarouge, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est une mesure physique d'un liquide. Il se fait que ici c'est de la bière, mais bon, voilà. C'est une mesure physique d'un liquide qui est exprimée par 256 valeurs, et il se fait que ces valeurs, on les a représentées sous forme d'une courbe, parce que c'est un petit peu plus joli de voir une courbe que voir un tableau de 256 valeurs. Mais en gros, vous avez 256 valeurs ici qui caractérisent d'une certaine façon un matériau physique qui est la bière à ce niveau-ci. Et le problème dont on s'occupe ici, c'est ce qu'on appelle un problème de classification, c'est voir si, au vu des données que l'on a ici, au vu des 256 valeurs qui ont été mesurées, c'est voir si, je crois que la bière dépasse ou non un certain taux d'alcool permis, parce que quand ça dépasse trop, c'est très bon, mais on ne peut pas la vendre parce qu'il y a quand même des lois qui limitent le taux d'alcool. Donc voilà, ça c'est un problème de classification. Alors quand je dis 256 valeurs, c'est un ancien exemple. À l'heure actuelle, les spectromètres qui mesurent ce genre de choses, ils ont 1024 valeurs ou 2048 valeurs. Donc ça veut dire que pour chaque échantillon, pour chaque bière, si vous voulez, on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de valeurs, et il faut en faire quelque chose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un problème de classification. Un problème de... Pardon, en français, c'est classification supervisée, c'est ça. Un problème de classification non supervisée, qu'en anglais, on appelle clustering, c'est quand on a des données, c'est essayer de les regrouper selon leur similarité. Alors ici, c'est un très ancien exemple sur lequel j'ai travaillé un petit peu à l'époque, mais c'est juste illustratif ici. C'est essayer de regrouper des ADN qui ont été mesurés d'une certaine façon, et c'est les regrouper par similarité. Donc essayer de classer d'un côté les ADN qui appartiennent à un groupe, d'un autre côté qui appartiennent à un autre groupe, et d'un troisième côté qui appartiennent à un troisième groupe. Alors je ne vais pas dans les détails de l'application, non, bien évidemment, mais l'idée ici, c'est simplement de voir que sur chaque ADN ont été, par une technique que je ne détaille pas ici, mesurés, alors je suis désolé pour l'horrible choix des couleurs ici, du rouge sur noir, ont été mesurés 16 000 valeurs différentes pour chaque brin d'ADN. Donc la question, elle est, on a un brin d'ADN, on a 16 000 valeurs, on a un autre brin d'ADN, on a 16 000 autres valeurs. La question est de savoir s'ils se ressemblent, oui ou non. Et bien entendu, la ressemblance telle que définie comme ça n'a aucun sens, c'est plutôt une ressemblance relative par rapport à d'autres. C'est-à-dire, est-ce que ces deux-là, et c'était en fait lors de l'étude du virus SRAS, est-ce que ces deux-là se ressemblent plus que ces deux-là pour avoir des idées sur la façon dont il faut attaquer le traitement de la maladie ou le développement d'un vaccin. Donc ça, c'est du clustering, donc de la classification non supervisée. Et bon, de nouveau, l'objet ici, c'était de montrer que la dimension des données, c'est-à-dire le nombre de valeurs qu'on a à notre disposition pour faire quelque chose, pour mettre dans un algorithme en fait qui va nous donner le résultat, eh bien c'est 16 000, ça veut dire qu'on a 16 000 valeurs pour un échantillon. Bon, ici j'ai un problème de prédiction qui est, voilà, vous avez une belle série temporelle, donc une série de valeurs au cours du temps, et la question c'est de savoir quelle va être potentiellement la prochaine. Alors bon, vous mettez ça à toutes les sauces que vous voulez, vous pouvez mettre ça à la sauce de la finance, c'est-à-dire vous mettez le cours du dollar ici, vous essayez de prédire celui de demain, si vous essayez ça ne fonctionnera jamais, mais enfin vous pouvez toujours essayer. Mais donc l'idée c'est de nouveau d'essayer de prédire une valeur en fonction de quoi? En fonction d'un certain nombre d'informations. Et quelles sont ces informations dans un cas très simple comme celui-ci? C'est les valeurs passées de la série. Bon, il y a bien entendu d'autres choses dont on peut tenir compte, mais rien que ça, ça veut dire qu'on a déjà un vecteur, un nombre d'informations qui est de grande, entre guillemets, dimension. On doit faire quelque chose avec beaucoup de valeurs mesurées simultanément. Alors, tout cela et bien d'autres problèmes, comme les problèmes ici, d'analyse de texte, les problèmes de reconnaissance d'image, c'est très schématique, hein, il ne faut pas y voir beaucoup de science derrière ce transparent. Tous ces problèmes, enfin beaucoup de ces problèmes, peuvent être en général résumés, alors je simplifie beaucoup ici, résumés par l'étude d'une matrice de données. Et si vous regardez un livre classique d'analyse de données, de base, je dirais, on a l'habitude de représenter ces matrices comme étant des matrices où le nombre de lignes représente le nombre de données qu'on a analysées, et le nombre de colonnes, c'est le nombre d'attributs, le nombre de valeurs que l'on mesure sur chaque donnée. Alors, par rapport à mes exemples précédents, eh bien, un brin d'ADN, c'est une ligne, mais le nombre de colonnes qu'il y a sur le brin d'ADN, eh bien, c'est 16 000 ou c'est plusieurs centaines de milliers. Tu peux le bouger, c'est mon ordinateur. Ça veut dire que le nombre de colonnes est en général très très grand. Alors c'est vraiment très différent, je dirais, d'un problème d'analyse de données classique qu'on voit, je dirais, dans un bouquin de base d'analyse de données, dans le sens où il y a énormément d'applications, c'est le message que je veux faire passer ici, il y a énormément d'applications à l'heure actuelle, où l'on doit construire où on a un problème d'analyse de données, on a une question à résoudre, où le nombre d'informations, le nombre d'exemples qu'on a à notre disposition est en fait très faible comparé au nombre d'informations mesurées simultanément. Donc la vue qu'on a en général de cette matrice, eh bien, elle est complètement retournée. On a énormément de colonnes et très peu de lignes. Exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler des analyses qu'on fait maintenant avec des puces ADN, ou donc on mesure un échantillon de votre sang par rapport à un certain nombre d'expressions de gènes, eh bien, typiquement, obtenir un échantillon de sang, donc faire une analyse chez un patient, ça coûte de l'ordre de 1000 euros, parce que c'est le prix de l'appareil, le prix du circuit qu'on met en œuvre. Et par contre, le nombre d'informations que l'on a simultanément grâce à cet appareil à 1000 euros, c'est 40 000. Donc, pour construire une ligne de la matrice, eh bien, il y a 40 000 valeurs dedans, mais ça coûte 1000 euros à chaque fois. Et donc, je vous garantis que le nombre d'applications médicales où on connaît plusieurs milliers de lignes, il est très réduit, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui se permettent d'investir plusieurs millions d'euros pour faire des mesures. Autrement dit, là où je veux en venir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a énormément de facilité pour mesurer beaucoup de choses, pour compiler de l'information, pour... c'est la technologie de l'information, je ne vous apprends rien. Donc, pour créer des valeurs, c'est très facile. Mais par contre, pour en mesurer beaucoup, ben, ça dépend de ce qu'on est en train d'étudier, ça dépend des coûts, ça dépend de l'expertise, ça dépend de plein de choses. Et donc, on est de plus en plus occupé à retourner les problèmes d'analyse de données par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques dizaines d'années. Donc, il y a quelques dizaines d'années, je rappelle, un problème classique, c'est on a beaucoup de données parce qu'on est dans des exemples simples et tout, mais on n'a pas les moyens de mesurer beaucoup de choses. Maintenant, c'est le contraire. Et ça pose vraiment des gros problèmes d'intuition par rapport à l'analyse de données. Alors, je vais en donner un exemple ici. Je ne sais pas, j'espère que... Il ne va pas y avoir une explosion, non, ça va? Ok. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici est familier avec une technique d'analyse assez classique, qui est l'analyse en composantes principales. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Bon, donc vous voyez, quand on montre un petit diagramme comme ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans à peu près n'importe quel livre qui parle d'analyse en composantes principales. On a des données qui sont ici en dimension 2. Alors, désolé pour l'incohérence de mon discours, je suis occupé à parler de données qui sont dans des espaces de très grandes dimensions, 1000, 10 000. Et puis, ce que je montre à l'écran, ben, c'est dimension 2, mais il faut bien que je montre quelque chose sur l'écran. Donc, on a des données qui sont en dimension 2. L'analyse en composantes principales, ça revient à chercher ce qu'on appelle des directions principales, des axes principaux. Donc d'abord celui-là, c'est le principal, et puis ça, c'est le deuxième, parmi cet ensemble de données. Alors ça a évidemment tout son sens, ça peut s'exprimer mathématiquement, on le verra tout à l'heure, même si c'est un détail, je dirais, mais l'intuition est là, l'intuition est évidente, c'est on a un nuage de points, ce nuage a une certaine direction, il a une certaine tendance, et on va aller chercher cette tendance dans le nuage de points. Alors maintenant, essayez d'imaginer, je suis désolé, j'ai pas de dessin pour ça, mais forcément, ce que pourrait être la même intuition du problème, c'est-à-dire trouver une direction principale dans un nuage de points, lorsque la dimension de l'espace n'est pas 2 mais 1000, alors c'est un peu difficile à imaginer, mais soit, mais et surtout, qu'on a à notre disposition 50 données. Donc on a 50 points dans un espace de dimension 1000. Que veut dire intuitivement la recherche d'une direction principale ? Eh bien, si quelqu'un a une explication intuitive évidente, je suis preneur parce que honnêtement, je n'en ai jamais trouvé. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je voulais faire passer ici comme message pour commencer. C'était dire, je pense que j'ai un transparent là-dessus, c'était dire que énormément de questions autour de l'analyse de données et de ce qu'on peut faire avec des données, avec des outils simples comme l'analyse en composantes principales, viennent de situations que on peut imaginer parce qu'on a une intuition là-dessus, parce qu'on peut les représenter. On a une intuition sur la façon dont les outils se comportent parce qu'on les a construits pour ça. On a construit l'analyse en composantes principales comme étant un outil qui va aller rechercher des directions principales dans un nuage de points lorsqu'il y a des directions. Et surtout, un tout petit peu plus mathématiquement ou statistiquement, en général, on considère les cas où le nombre d'observations, le nombre de points dans un espace, est beaucoup plus grand que la dimension de l'espace qui est ici 2. Et en fait, en pratique, eh bien, malheureusement, ou heureusement parce qu'autrement, je n'aurais pas beaucoup de travail, les vraies situations, les vrais problèmes auxquels on fait face, eh bien, c'est des situations où les données sont en très très grande dimension, où on en a très très peu, et donc on a un nombre de dimensions qui est largement supérieur au nombre d'observations, et en fait, toute l'intuition tombe, on ne peut plus rien faire. On n'a plus d'intuition sur ce que sont les outils d'analyse de données. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé, je dirais, d'une façon intuitive. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin par rapport à ça, l'analyse en composantes principales, pour ceux qui voient ce que c'est un peu plus mathématiquement, c'est-à-dire qui voient quelles opérations il faut effectuer dans une analyse en composantes principales, en gros, il faut prendre une matrice, qui est ce qu'on appelle une matrice de covariance des données. La taille de cette matrice, c'est la dimension de l'espace fois la dimension de l'espace. Donc quand on est en dimension 2, c'est 2 fois 2. Quand on est en dimension 1000, c'est 1000 fois 1000. Et puis, il faut faire quelque chose avec cette matrice. Mais avant d'en faire quelque chose, il faut la connaître. Il faut l'estimer au sens statistique du terme. Et donc, pour pouvoir estimer une matrice 2 fois 2, qui de plus est symétrique, il y a 3 valeurs à estimer. Si vous avez quelques milliers de valeurs, facile d'estimer 3 moyenne et variance, je dirais, à partir de quelques milliers de données, c'est facile. Par contre, si vous êtes dans un espace de dimension 1000, le nombre de valeurs à estimer dans la matrice, c'est 1 million. Enfin, c'est la moitié parce qu'elle est symétrique, mais c'est de l'ordre du million. Et si vous avez 50 points, 50 informations à votre disposition, c'est difficile. C'est le mot est faible, évidemment. C'est impossible d'estimer correctement une matrice de covariance quand on est dans des espaces de grande dimension et quand on est à nombre fini, enfin, ou très petit d'échantillons. Donc, tout ça pour dire que ce que j'essaye de faire passer intuitivement, il y a une correspondance, je dirais, qui est un petit peu plus technique, un petit peu plus statistique derrière, qui est dans des problèmes d'estimation. Alors, les problèmes que je mentionne pour l'analyse en composantes principales, ils existent dans l'analyse en composantes principales. Croyez-moi, ils existent dans toutes les autres méthodes linéaires que vous puissiez utiliser pour faire de l'analyse, donc l'analyse linéaire discriminante, la PLS et d'autres méthodes similaires. Et alors, un jour vous avez dans l'idée d'utiliser des outils non linéaires d'analyse de données, eh bien c'est pire. Donc c'est déjà pas triste en linéaire, mais c'est vraiment pire parce que en plus des problèmes qui sont liés aux données, vous remarquez que pour le moment je n'ai pas parlé de méthodes, je n'ai parlé que de données. En plus des problèmes liés aux données, vous avez les difficultés des méthodes. Et les difficultés des méthodes non linéaires, c'est qu'il y a des choses à optimiser derrière, et quand on optimise et que c'est non linéaire, on arrive dans des minima locaux et ce genre de choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste pour dire que tous ces problèmes restent valables et sont même amplifiés dans le domaine non linéaire. Alors, je vais encore parler quelques minutes de façon, je dirais, un tout petit peu plus précise de choses qui sont surprenantes lorsqu'on traite des données de grande dimension. Alors, c'est un peu, je dirais, exagéré ce que je vais présenter, parce que c'est un peu pour vous titiller, pour montrer qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Je ne dis pas que tous les problèmes sont directement liés à des techniques modernes d'analyse de données, mais on va voir de quoi je parle ici. Alors, oui, malheureusement, j'avais une animation sur ce transparent-là, mais comme on l'a converti en PDF, mais c'est pas très grave. Imaginez que le problème soit, donc ne regardez pas ce qui ne devait pas apparaître du premier cours, ne regardez que ceci. Imaginez que le problème soit, qu'on ait à résoudre, soit un problème de ce qu'on appelle un problème de régression en dimension 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on connaît un certain nombre de points par rapport à une variable x, dont on connaît la réponse, on connaît f de x, voilà, on en connaît une douzaine, quelque chose comme ça, et on voudrait bien construire un modèle, c'est-à-dire construire quelque chose de raisonnable qui approxime raisonnablement bien les données dont on dispose. Voilà quelque chose de raisonnable. Imaginez maintenant qu'on ait exactement le même problème, sauf que il y a deux ou trois données qu'on ne connaît pas par rapport à ce problème-là. C'est le même, sauf que j'ai retiré deux points verts ou trois points verts. En fait, quand on réfléchit de nouveau de façon intuitive au problème de modélisation, eh bien, vous pouvez construire ce modèle-là ou vous pouvez construire ce modèle-là, ils vont être aussi bons l'un que l'autre. Aussi bons l'un que l'autre, parce qu'ils approximent de la même façon, je veux dire avec le même ordre de grandeur d'erreur par rapport aux points que vous connaissez, ils approximent les données que vous connaissez. Et puis, ils sont, il n'y en a aucun des deux qui paraît non raisonnable, ils sont lisses, ils sont bien gentils. Donc voilà, on a vraiment aucun moyen, en fonction des données que l'on connaît, c'est-à-dire des points verts, de décider si ce modèle-là est meilleur que ce modèle-là ou vice-versa. Alors, ça c'est très joli. Mais c'est en dimension 1, c'est quand on a une variable x ici. Alors quel est le phénomène en fait qui apparaît ici? Eh bien c'est tout simplement, c'est évident sur ce transparent, que dans une plage de valeur x où on ne connaît rien, on ne peut pas construire de modèle puisqu'on ne connaît rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que en pratique, on n'a pas une variable x, on en a plusieurs. Et les plusieurs de tout à l'heure, c'est quelques centaines ou quelques milliers. Donc, en fait, on ne travaille pas dans un espace de dimension 1 que l'on est occupé à plus ou moins, c'est très approximatif ici, discrétisé en, par exemple, 5 valeurs. Il y en avait déjà plus ici, hein. Il y en avait déjà une douzaine, mais là, pour les besoins des petits dessins, je me suis dit 5 valeurs, ça suffit. Si on était en dimension 2, avoir la même intuition de discrétisation, la même précision, ben, ça voudrait dire qu'on devrait connaître 25 valeurs, parce qu'on est sur une grille en dimension 2, et puis vous avez compris où je veux en venir, en dimension 3, il y en a 125, et ainsi de suite. En fait, je vais occuper à montrer intuitivement que le nombre de données dont on aurait besoin pour faire les choses correctement, il augmente exponentiellement en fonction de la dimension. Si on estime que 5 données, ça suffit en dimension 1, ben il en faut déjà 125 en dimension 3. Et donc en dimension 1000, il en faut 5 exposant 1000. Alors je connais peu, et je ne connais même aucun problème concret, réel, d'analyse de données, où on peut disposer de 5 exposant 1000 données. Donc si vous devez un jour analyser des données et que la première chose que vous dites à celui qui produit les données, c'est « donnez-moi d'abord 5 exposant 1000 données », ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup de zéros. Et puis je vais commencer à analyser, ce n'est pas raisonnable. Donc il y a vraiment un fossé entre l'intuition, mais qui est confortée par la théorie, hein, je dirais, qui dit qu'il faut énormément de données pour pouvoir travailler correctement, et ben, les applications pratiques où en fait on a peu de données dans des espaces de très très grandes dimensions. Alors je vais passer ceci. Je vais peut-être directement, parce que le temps est compté, arriver à ce transparent-ci. En fait, l'idée, c'est de montrer que lorsqu'on travaille dans des espaces de grande dimension, mais alors grande ici, je vais vous dire après, ça c'est la dimension de l'espace, donc on est occupé à parler de 20, donc on est très très loin des centaines ou des milliers dont je parlais tout à l'heure, parce que petit à petit, je voudrais amener, je dirais, le raisonnement sur le fait que une dimension, un espace de dimension 10 ou 20, c'est déjà en fait très très grand, comparé à l'intuition que l'on a en dimension 2 ou 3. Alors ici, qu'est-ce que j'ai calculé? Pas quelque chose de très très scientifique. J'ai mis une gaussienne, alors ça c'est la vue du dessus d'une gaussienne, vous savez tous ce que c'est une fonction gaussienne, donc je l'ai assez mal illustré en couleur. Donc là où c'est clair, ça veut dire qu'elle est élevée, et là où c'est foncé, ça veut dire qu'elle est basse. Et j'ai calculé la probabilité que l'on a, si on distribue des objets selon une distribution gaussienne, la probabilité qu'un objet a d'être à distance R du centre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Intuitivement, on se dit, quand on a une gaussienne, si on est au centre de la gaussienne, comme c'est une distribution, comme elle est plus élevée, la probabilité va augmenter, et au plus on s'éloigne du centre, au plus elle va diminuer. Bien, si vous regardez, c'est cette probabilité qui est exprimée ici, si vous regardez ça, en dimension 1, ici, c'est tout à fait le cas intuitivement, en dimension 1, donc ça c'est déjà la dimension 2, hein, mais en dimension 1, la probabilité d'être près du centre, elle est élevée, et la probabilité d'être très loin du centre, elle est faible. C'est l'intuition d'une gaussienne. Alors le problème, c'est qu'en dimension 2, c'est déjà plus vrai. En dimension 2, qu'est-ce qui se passe? Vous avez que la probabilité d'être à une distance à peu près de 1 du centre, elle est plus grande que la probabilité d'être à une distance de 0,1. Pourquoi? Parce que là, vous êtes à distance 1, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Tandis qu'à distance 0,1, c'est soit là, soit là, soit là, soit là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a moins de points. Donc, je dirais, en termes mathématiques, on intègre sur un lieu qui est plus petit, et donc on arrive à une probabilité qui est plus faible. Bon, soit vous direz, et alors, quel est le rapport avec le reste? Mais le rapport, c'est que quand on augmente un petit peu la dimension, et que vous avez des données, en fait, qui sont tout à fait aléatoires. Il n'y a rien dans ces données. La gaussienne, c'est vraiment la chose la plus aléatoire que l'on puisse considérer comme type de données. Eh bien, quand on augmente la dimension, on remarque que, quelle que soit la donnée, puisqu'elles sont aléatoires là-dedans, avec une grande probabilité, je peux vous prédire, sans connaître la donnée, à combien elle est du centre de votre espace. Vous me donnez une donnée, vous ne me dites pas laquelle c'est, et moi je vous dis, eh bien, votre donnée, je vais mesurer sa distance par rapport au repère de l'espace, eh bien, sa distance, elle sera de 4,3. Alors, Alors, je me trompe, évidemment, parce qu'elle peut très bien être là ou là ou là ou là ou là ou là. C'est une gaussienne, ceci. Ça ne s'arrête jamais. Mais là, en termes de probabilité, ceci, c'est tellement peu élevé que je vous garantis que la probabilité que votre donnée soit à distance 1 du centre, elle est nulle. Elle est 0,00, beaucoup de zéros, et puis voilà, donc ça n'arrive jamais. Alors, ceci, ça a une application très, très, très directe. Voici une illustration un tout petit peu du même phénomène, je dirais, qui est, on prend des données aléatoirement dans un cube, je vais le dessiner ici. Ceci, c'est un cube, en dimension 2. Un cube en dimension 2, c'est un carré. Je mets mon origine ici, je mets des données aléatoirement dedans, et je mesure la distance entre chaque donnée et le centre. Et puis je fais un histogramme de ça. Donc je regarde comment elles sont distribuées. Ben voilà la distribution. La plus petite distance, c'est 0, forcément. La plus grande, c'est racine de 2. J'ai oublié de dire que ça, c'était 1. Et ça aussi. Donc la plus grande distance, c'est ceci, c'est racine de 2. Et elles sont distribuées comme ça. Ça paraît relativement normal. Si je fais le même exercice en dimension 50, j'ai ça. Alors de nouveau, c'est exactement le même résultat. Ça veut dire que j'ai une donnée, je ne la connais pas, je ne sais pas si elle est là, là, là ou là, mais par contre, je peux vous dire qu'elle est à distance de 4,2 du centre, enfin, ou du repère de l'espace, avec une très grande probabilité. Et puis, croyez-moi, je ne l'ai pas dessiné, mais si j'augmente la dimension de l'espace, le pic, il va se resserrer de plus en plus. Et il va se resserrer à tel point que toutes les données vont être à même distance du centre, enfin, ou de l'origine de mon repère ici, ou d'un point fixe de n'importe quel. Toutes les données vont, en fait, mesurer la même chose, quelle que soit la donnée, tout simplement parce qu'elles sont aléatoires. Et ça nous pose vraiment des gros problèmes. Je pense que j'ai un transparent. Bon, ça, c'est un petit peu plus technique. Non, j'ai pas de transparent là-dessus. Ça nous pose vraiment des gros problèmes parce que toutes les techniques d'analyse de données, en tout cas, toutes celles que moi j'utilise, donc j'espère qu'il y en a des meilleures, mais toutes celles que moi j'utilise, elles se basent sur des distances. Donc la première chose qu'on fait quand on a une donnée, quand on a une mesure de quelque chose, c'est on prend la distance par rapport à autre chose. Et puis ce que je montre ici, c'est que en fait, l'opération qui consiste à prendre la distance, elle ne veut rien dire. Parce que quelle que soit ma donnée, donc j'en ai une deuxième, je prends la distance par rapport à quelque chose, et bien le résultat il est le même. Et donc vous avez beau essayer d'analyser les choses après, c'est une catastrophe, vous tombez dans des problèmes qui sont ben, tout simplement que les données ne sont plus discriminantes. Or c'est ça que vous voudriez faire, c'est les analyser, donc en tirer une information pertinente. Alors bien entendu, en disant tout ça, j'ai exagéré, je vous ai presque menti, mais pas tout à fait. Donc j'ai pas du tout menti sur le résultat technique qu'il y a ici. Là où j'ai fort exagéré, c'est que en fait une donnée qui est près de mon repère ou une donnée qui est loin, ben celle qui est près, elle va être là, et celle qui est loin, elle va être là. Donc celle qui est près, elle va être plus près que celle qui est loin, heureusement. Donc l'ordre est respecté. Tout ce qui concerne des notions d'ordre est respecté. Mais par contre, quand on essaye de mesurer, c'est une catastrophe. Vous voyez, donc c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer ici, c'est qu'il y a des mesures numériques, je dirais, qui ne tiennent pas la route quand on essaye d'utiliser des données en haute dimension. Et mesures numériques, ça peut être aussi simple que la distance euclidienne, celle que l'on utilise tous quand on mesure des choses, quand on mesure la distance d'un point à un autre. Ça ne tient pas la route. Par contre, fort heureusement, l'ordre est respecté et on va essayer de tirer parti de ça dans la suite. Donc voilà, le premier message, je dirais, de cet exposé, mais pour lequel j'ai pris du temps, hein, j'en suis conscient, c'est dire que quand on veut analyser des données en haute dimension et haute, ben, dans ma motivation, c'était quelques centaines ou quelques milliers, mais vous avez vu que dans l'argumentation technique, je suis arrivé à quelques dizaines, hein, donc c'est à peine plus que deux ou trois. Quand on veut analyser des données en haute dimension, ben, on perd l'intuition. De temps en temps, ben, il y a des hypothèses derrière les modèles qui sont plus vérifiées. Les performances des outils, en général, dégringolent très très fort. Et en fait, le message principal, c'est qu'on n'a jamais assez de données pour faire les choses correctement lorsqu'on travaille dans des espaces de grande dimension. Alors, une des façons, et je dis bien que c'est une des façons, il y en a d'autres, mais une des façons de contourner le problème, pas de le résoudre, le problème il est là, et encore une fois j'insiste sur le fait que ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est lié aux données, c'est pas lié aux outils. Donc vous pouvez déployer n'importe quel outil d'analyse de données, vous aurez les mêmes problèmes. mais c'est vraiment lié à la nature des données. Donc résoudre le problème, c'est impossible par définition puisque c'est lié aux données, mais par contre on peut essayer de le contourner. Et une des façons de contourner le problème, eh bien, c'est de projeter. Alors projeter au sens de l'analyse en composante principale, c'est prendre des points dans un espace et puis les mettre dans un espace plus petit. Et si la dimension de l'espace est plus petite, ben, on aura moins de problèmes puisque ce que j'ai essayé de montrer, c'est que tous les problèmes étaient liés à la taille de l'espace, à la dimension de l'espace. Okay. Alors, on peut utiliser des méthodes de réduction de dimension. Je vais en parler dans 2-3 minutes. En fait, les méthodes de réduction de dimension ont plusieurs utilités. Alors, la première, c'est de la visualisation. C'est l'objet principal ici, hein, d'ailleurs. De la visualisation, parce que dès qu'on dépasse la dimension 3, nous ne sommes pas capables de visualiser quelque chose facilement quand la dimension dépasse 3. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce genre d'outils pour passer d'une dimension plus élevée à une dimension 3 ou en général 2, hein, parce que les papiers et les écrans d'ordinateur, c'est toujours en dimension 2, donc en général on s'arrête à la dimension 2 pour faire de la visualisation. Il y a d'autres motivations sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais la deuxième motivation, c'est la réponse au problème dont j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire que si on parvient à réduire la dimension de l'espace de travail, eh bien on va avoir moins de problèmes par exemple vis-à-vis de ce genre de choses que si on reste dans un espace de dimension plus grande. Et puis la troisième motivation, c'est que souvent réduire la dimension, ça nous permet d'appréhender plus facilement des données et en fait d'enlever du bruit. Alors, la première, la visualisation. Alors là, ça, c'est un très, très ancien exemple et je suis absolument désolé de ne pas avoir mis la référence parce que je l'ai volé à Marie Cotterell. Il y a bien des années, hein, donc il y a au moins une dizaine d'années. Ah ben voilà, donc tout va bien. Donc c'est une analyse socio-économique sur des pays. Donc vous voyez ici un certain nombre de pays, il y en a qui n'existent plus d'ailleurs depuis lors. Vous avez 6 indicateurs qui sont détaillés ici par pays. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Rien du tout. Si vous voyez ça, ben voilà, on a des données, c'est très joli. Et puis par contre, voilà les mêmes données, mais qui ont été projetées en dimension 2. Alors par une technique et par une autre, ça c'est une technique linéaire, c'est de l'analyse en composante principale. Ça, ce sont des cartes de Cohen, c'est déjà un peu plus non linéaire. Et bon, je vais pas commencer à analyser les données, mais au moins, on voit tout de suite qu'il y a une information à en tirer. Il y a des groupes de pays qui sont similaires, il y en a qui sont très différents des autres, il y a un certain nombre de choses qu'on peut percevoir très très facilement. Je pense que l'application à la visualisation, elle est évidente. Alors, je vais passer sur la deuxième motivation, je dirais, qui est de la réduction de dimension technique de façon à contourner ces problèmes. Je vais parler de la troisième qui est enlever le bruit, et j'ai volé ce transparent à Thomas Martinez, qui est ici dans la salle, qui m'a autorisé il y a un an. Donc, c'est tout à fait par hasard que je montre ce transparent aujourd'hui, mais je lui avais demandé il y a un an si je pouvais les réutiliser. Donc, l'idée c'est quoi ici? C'est dire que des images, ce sont aussi des objets en très très grande dimension. Alors je ne sais pas si j'ai indiqué la dimension des images ici, non, mais bon, si c'est une image 600 par 800 pixels, mais ça veut dire que c'est un objet qui est décrit par 4 800 000, c'est ça, 600 fois 800, ça doit être ça, 4 800 000 valeurs qui sont en fait les intensités des pixels dans l'image. Donc chaque image est un objet de dimension 4 800 000. Mais fort heureusement, toutes les images ne sont pas possibles, elles ne sont pas naturelles. Si vous générez n'importe quoi, si vous générez aléatoirement la valeur de ce pixel-là, puis la valeur du pixel d'à côté, puis la valeur du pixel d'à côté, ben vous aurez n'importe quoi. Vous n'aurez pas une image réelle, vous n'aurez pas une image de cette magnifique ville de Bruges qui est ici. Et donc l'idée, c'est de dire que parmi toutes les images possibles dans cet espace de dimension immense, en fait, il y en a un tout petit nombre, il y en a beaucoup, hein, des images possibles, il suffit de regarder Google Images, mais il y en a quand même très très peu par rapport au nombre d'images que l'on pourrait générer artificiellement. Et donc l'idée, c'est de dire, si on représente l'espace de toutes les images possibles, okay, ça c'est mon espace ici, et puis qu'on représente uniquement les images possibles. Alors ça, l'analogie, elle est très difficile à dessiner, hein, parce que l'espace de toutes les images possibles, c'est un espace de dimension 240 000, donc je m'étais royalement trompé en disant 4 800 000, mais c'est très grand. Et puis l'espace des images naturelles, ben, une estimation, c'est dimension 10 000. Donc vous voyez, les ordres de grandeur, c'est toujours énorme, mais c'est très petit comparé à ceci. Et si on a une image qui est extrêmement bruitée, voici une image extrêmement bruitée. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, moi rien du tout, mais c'est une des images du transparent précédent sur laquelle on a oublié d'enregistrer, enfin de coder 90% des pixels de l'image. Donc on a gardé 10% d'information, donc on voit vaguement quelque chose. Et bien si on projette cette information, qui est cette image-là, sur l'espace des images possibles, croyez-moi, on va revenir parfaitement à l'image initiale qui n'était pas là. Voilà. mais vous la voyez plus ou moins en transparent. Moi, je la vois sur mon écran, mais je ne la vois pas sur ici. Voilà, donc ça, c'est l'idée d'enlever du bruit. Et tout ça se base sur une hypothèse, en fait, qui est que quand on considère des points dans un espace, alors ici, pour la représentation schématique, ce sont des données dans un espace de dimension 3, là, la couleur, à la limite, n'a aucune importance ici, eh bien, de façon naturelle, heureusement, dans tous les problèmes d'analyse de données, on n'a pas une vraie dimension 3. On a moins que ça, on a beaucoup moins de cas possibles que l'ensemble des cas possibles dans la dimension 3 ici. On a ce qu'on appelle l'hypothèse de manifold, l'hypothèse de variété, qui fait que les données, de façon naturelle, elles se mettent sur un sous-espace un petit peu plus petit. Et donc toute l'idée va être de dire, quand on a des données, surtout on ne leur donne pas toutes les possibilités possible et imaginable, non, on va essayer de restreindre les données à cette variété. Alors, donc on va développer des méthodes qui vont essayer de transformer des données qui sont dans un espace de grande dimension en des données qui sont dans un espace de plus petite dimension. Alors de nouveau, désolé, mais pour les besoins de l'illustration, tout ce que je peux montrer sur un écran, c'est des données qui sont en dimension 3 ici, peut-être pas très visible, mais c'est en dimension 3, c'est un espèce de rouleau enroulé sur lui-même. Et on va essayer de projeter ça, et ici j'aurais dû mettre des axes, mais c'est une dimension 2. Donc on va essayer de réduire la dimension de l'espace. Alors en pratique, les méthodes, elles sont faites pour réduire de dimension de, je ne sais pas moi, quelques dizaines à 2 pour faire de la visualisation. Ici je vais passer de 3 à 2 parce qu'il faut que je montre quelque chose. Alors, ce transparency, juste pour faire un préliminaire, je dirais, qui est de dire que, attention, quand on veut projeter des données, c'est-à-dire réduire la dimension de l'espace, on a un énorme problème. C'est qu'on est incapable de définir ce que c'est une bonne projection. Pourquoi ? Parce qu'une bonne projection, ça pourrait être quelque chose de joli. Ben oui, parce que le but recherché, c'est de la visualisation, et donc on voudrait que ça ressemble à quelque chose. Ça pourrait être d'avoir un respect de quelque chose entre ces données-là et ces données-là qui nous permettent de réduire la complexité, la dimension ici, de 3 à 2, mais de repasser facilement vers l'espace de dimension 3, donc en fait d'avoir une bijection entre les deux espaces pour pouvoir passer d'un à l'autre pour qu'il y ait le même contenu d'information. Ça pourrait être plein d'autres choses. Ça pourrait être un respect de la topologie, mais ça je ne vais pas détailler ici. Ça, donc on peut baser la qualité, l'évaluation de la qualité de la projection sur un ensemble de critères très variés et qui dépendent vraiment du but recherché, de l'application recherchée. Et donc ça c'est quelque chose sur laquelle il faut insister, parce que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver entre ce que quelqu'un dit être une bonne méthode et ce que quelqu'un d'autre dit être une bonne méthode, et en fait elles sont toutes les deux bonnes, mais elles sont toutes les deux bonnes parce qu'elles poursuivent des objectifs différents. Alors, j'ai déjà parlé de l'analyse en composante principale, ça, vous savez ce que c'est, plus ou moins. Donc, surtout, vous ne regardez pas la moindre équation de mes transparents, regardez uniquement les petits dessins. Donc, l'analyse en composante principale, c'est, on a un nuage de points, on essaye de trouver des axes principaux qui représentent le plus possible les directions principales dans le nuage de points. Alors ça, je dirais, c'est la méthode de base en projection. Mais on peut tout de suite faire une constatation qui est de dire, ben, c'est très joli d'aller rechercher ces axes bleus dans un espace, donc l'espace des points rouges, ici l'espace de mes données. Et espace signifie qu'à un moment, on a défini l'origine de l'espace et on a défini un espèce de repère pour pouvoir aller mesurer ces points rouges. Okay, donc ça, c'est une définition un tout petit peu plus... enfin, qui se rapproche un tout petit peu des définitions formelles d'un espace géométrique. Donc, on a besoin de coordonnées de ces points. Et en fait, la première question qui vient à l'esprit, c'est, tiens, est-ce que pour trouver ces directions principales, donc pour trouver l'information que l'on cherche, les axes bleus, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de connaître la localisation des points rouges dans l'espace pour pouvoir trouver les directions bleues? Et la réponse, elle est non, parce que si elle était oui, je ne poserais pas la question. La réponse, elle est non. Si vous n'avez pas les axes, intuitivement, vous avez la même information. Le repère, il est peut-être ici, il est peut-être là, on s'en fiche, mais vous avez ces points rouges et les axes, c'est toujours les mêmes. Et en fait, ça, c'est l'idée qui a été développée dans une méthode qui s'appelle le MDS, le Metric Multidimensional Scaling. Alors, je ne sais pas très bien s'il y a une traduction en français de cette méthode. Enfin, ça n'a pas... Oui, bon, je ne sais pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on n'a pas besoin des coordonnées, des points, pour pouvoir extraire ces axes principaux, pour pouvoir extraire l'information principale, mais on a besoin de leur position relative. On a besoin de savoir que celui-là, il est à côté de celui-là, et il n'est pas à côté de celui-là. Et si on formalise ça un tout petit peu, en fait, on peut voir que si on connaît toutes les distances entre les paires de points, eh bien, on connaît toute l'information. Donc, si on connaît la distance entre ce point-là et ce point-là, et entre ce point-là et ce point-là, et ainsi de suite, si on connaît les n fois n moins 1 sur 2 distances qu'il y a entre n points, eh bien, on connaît toute l'information, on n'a pas besoin de connaître le repère. Et donc, ça, c'est l'idée qu'il y a derrière le multidimensional scaling. Et en fait, comme résultat, ça va donner exactement la même chose que l'analyse en composantes principales, mais ça a été développé dans des domaines, en particulier en psychologie au départ, où les informations étaient de nature, je dirais, relative, plutôt que de nature absolue, c'est-à-dire plutôt que mesurée par rapport à un point d'origine quelque part. Alors ça a été un petit peu le point de départ à tous les développements. Combien de temps me reste-t-il, plus ou moins ? Je ne sais plus très bien à quelle heure on a commencé. 12, d'accord. Ça va, merci, ça va. Ok, parfait. Donc en fait, ceci, ça a été cette constatation qui est qu'on peut extraire la même information que celle de l'analyse en composantes principales, mais sans connaître la localisation des données. Ça a été un petit peu le point de départ de tous les développements de ce qu'on appelle maintenant la projection non linéaire, ou en anglais le manifold learning, ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est de dire que, donc, le multidimensional scaling, que j'appelle MDS ici dans les transparents, en fait, il optimise ce critère-là mathématique. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ceci d'un point de vue mathématique, mais je vais dessiner au tableau parce qu'après, je vais effacer ce transparent-là pour passer à d'autres. Donc, on veut passer d'un espace, disons, de dimension 3 en dimension 2. On connaît les données dans l'espace de départ, et je les ai appelées sur mes transparents Y. Donc, on connaît Y1 qui est ici, Y2 qui est là, et ainsi de suite. Ça, ce sont les Y. Et on voudrait bien projeter ces données Y sur un espace de dimension plus petite, qui est X ici, pour avoir X1, X2, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la notation. Alors, dans mes transparents, j'ai appelé delta les distances entre les points dans l'espace de départ, et D, les distances entre les points correspondants dans l'espace d'arrivée, dans l'espace de projection. Eh bien, si on transforme un tout petit peu les équations et qu'on n'est pas trop regardant, je dirais, sur la rigueur entre le transparent précédent et celui-ci, parce qu'il y a quand même des petites nuances, mais pas très importantes d'un point de vue intuitif, en fait, on remarque que le MDS, c'est plus ou moins optimiser ce critère-ci. Alors, ça paraît très compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est simplement, on essaye pour toutes les paires IJ, donc pour toutes les paires de points, de rendre le plus égal possible le D et le delta correspondant. C'est-à-dire, on essaye que la distance ici entre deux points qu'il y avait, ça c'est la donnée, bien, soit respectée dans l'espace d'arrivée. Donc on essaye, autrement dit, que deux points qui étaient proches restent proches, et que deux points qui étaient très loin soient très loin. On essaye de respecter ce qu'on appelle des relations de voisinage, mais qui sont mesurées par des distances. Et donc voilà, de nouveau, à quelques approximations près, on peut montrer que le MDS s'est minimisé plus ou moins ce critère-là. Et puis, on s'est dit, ah ça c'est très joli, mais le MBS c'est une méthode linéaire. C'est, je rappelle, c'est la même chose que l'analyse en composante principale, donc c'est linéaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour un petit peu améliorer les choses? Et je pense que, voilà, j'ai une illustration ici. Améliorer, voilà une illustration de nouveau intuitive du besoin d'améliorer les choses, c'est que si on a des données qui sont sur une sorte de rouleau comme ceci en dimension 3, eh bien si on se restreint à des méthodes linéaires, on ne pourra jamais rien faire. Enfin, en tout cas, jamais rien faire d'intéressant à partir du moment où on admet que ce qui est intéressant, et c'est une hypothèse, c'est dérouler ce rouleau qui est ici. Et pourquoi on n'arrivera pas à faire ça? Eh bien, tout simplement parce que si on déroule le rouleau qui est ici, la distance entre ce point-là et ce point-là, elle doit forcément être agrandie. Et agrandie très fort, parce que ben, ici, elle était mesurée, elle fait ça, et là, quand je la mesure, elle fait quasi le double. Vous voyez, intuitivement, quand on déroule le rouleau, une petite distance comme celle qui est illustrée en noir, elle va être respectée, mais une grande, elle ne va pas être respectée du tout, elle doit être agrandie. Et ça, ça va tout à fait à l'encontre du critère qu'il y a ici, parce qu'ici, on essaye de garder égales les petites distances, mais aussi les grandes, et pire, quand il y a des différences entre les grandes, ça va être des grands nombres qui vont être mis au carré. Un grand nombre au carré, ça donne un très grand nombre. Donc ça va influencer très très fort la méthode. Autrement dit, ça ne va pas marcher du tout. Et donc l'idée qui est venue à la suite de ça, c'est de dire ben, qu'à cela ne tienne, puisque intuitivement, on sent bien que l'idée, c'est de conserver les petites distances le plus possible, mais les grandes, c'est un peu moins important, et intuitivement, c'est naturel. Hein, c'est-à-dire, des données qui sont très similaires, on veut qu'elles restent très similaires. C'est normal, c'est quasi les mêmes. Par contre, des données qui sont très différentes, ben, qu'elles soient encore un peu plus différentes, c'est pas très important intuitivement. Eh bien, si on transforme le critère en divisant chaque terme par la valeur elle-même de la distance, ça veut dire que quand c'est petit, on va donner beaucoup d'importance à la paire de points, quand c'est grand, on va donner peu d'importance, et en fait, ça va très bien marcher. Et donc, c'est simplement en divisant par la distance ici que l'on parvient à dérouler des données et à faire ben, une façon à réaliser une sorte de projection non linéaire. Alors, c'est la partie technique, mais ça devient le critère à optimiser. Il reste à l'optimiser. Alors la seule chose, c'est qu'il est un tout petit peu moins sympathique que dans le cas analyse en composante principale. Parce que dans le cas analyse en composante principale, il était comme ça. Comme ça, c'est quoi? C'est un critère qui est quadratique. Quadratique, c'est une somme avec des carrés. Et quand on optimise un critère quadratique, eh bien, il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est de l'algèbre linéaire, et ça marche tout seul. Quand on commence à avoir des divisions, c'est une autre affaire, ça devient de l'optimisation non linéaire, et là, on est parti pour des algorithmes de gradient et des choses comme ça, donc c'est plus lourd, c'est plus compliqué, c'est plus lent, et ça demande un petit peu plus de mise en œuvre. Alors, tout ça, c'est des choses qui étaient connues il y a déjà des dizaines d'années. La seule chose, c'est que j'ai oublié de mentionner une chose qui était importante quand même, c'est que par rapport à quels paramètres on optimise ces fonctions, donc quels sont les inconnus là-dedans? Les inconnus, c'est la localisation des points. Donc si vous avez 10 000 points et que vous voulez les projeter en dimension 2, vous avez en fait 20 000 inconnus dans le problème. Et optimiser une fonction non linéaire de 20 000 inconnus, fonction qui elle-même est pas sympathique du tout, hein, donc qui est difficile à optimiser, et bien même si techniquement c'était des choses qui étaient bien connues il y a déjà quelques dizaines d'années, bien on n'avait pas les outils informatiques pour faire ça tout simplement. On n'avait pas des outils qui permettaient de faire de l'optimisation correcte de ce genre de critères. Et c'est pour ça que en fait ces méthodes n'émergent, je dirais, que depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, mais tout simplement parce que maintenant, ben, on peut optimiser ça de façon relativement facile. Voilà, alors malheureusement, ça ne fonctionne pas encore très bien. Ici, vous avez des exemples. Alors, c'est des exemples très classiques, très, très académiques. Hein. Ça ne veut rien dire, évidemment, ces exemples. Vous voyez, vous avez une boîte ouverte, vous essayez de la projeter. Eh bien, malgré tout, oui, ça va plus ou moins. Mais enfin, vous avez quand même un bel écrasement ici de la boîte. Et une des raisons, c'est qu'en fait, la méthode que j'ai décrite jusqu'à présent n'est pas faite pour pouvoir déchirer des données. Quand vous avez... Ici, on sent bien que quand vous voulez aplatir un carton, vous voulez aller jeter, eh bien, il faut le déchirer quelque part. C'est obligatoire, un peu autrement, c'est impossible. Donc, si on voulait déchirer selon une arête, ça veut dire qu'on oblige à ce que deux données qui étaient proches deviennent très éloignées. Or, regardez le critère mathématique, quand elles étaient proches, leur distance était petite, Et donc, ça va avoir beaucoup d'influence parce qu'on va diviser par une valeur qui est petite. Donc, ça va avoir énormément d'influence. Et si ça a beaucoup d'influence, ben, on ne va pas pouvoir les déchirer. Et donc, l'idée qu'il y a eu après cela, et ça, ça date que d'une bonne quinzaine d'années, je dirais, c'est de dire, au lieu de diviser par delta, qui était la distance dans l'espace ici de départ, on va diviser par le d, qui est la même distance, mais dans l'espace d'arrivée. Alors, au départ de l'algorithme, en général, c'est plus ou moins la même chose, mais au fur et à mesure que l'algorithme va faire en sorte que la boîte se déchire, eh bien, ça va faciliter la convergence de l'algorithme. Donc, ça va plus facilement déchirer. Et donc, on va avoir des problèmes comme ceci. Par exemple, projeter une sphère. On sait depuis quelques centaines d'années, depuis qu'on fait des planisphères, plus ou moins comment projeter une sphère, mais pas de façon automatique, on l'a fait de façon intuitive. Eh bien, si on voulait faire ça, c'est-à-dire projeter une sphère en dimension 2 le mieux possible, il faudrait des méthodes qui déchirent au sens propre, hein, qui parviennent à couper la distribution. Eh bien, pour faire ça, le seul moyen, je vais passer ici, le seul moyen, excusez-moi, je reviens sur le transparent. Voilà, le seul moyen, c'est de remplacer le delta par le d dans la formule et donc d'arriver à un déchirement. Alors, une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que on en arrive à un compromis d'utilisateur. Pourquoi ? Mais parce que si on n'autorise pas les déchirements, qu'est-ce qu'on a ? On a un aplatissement, on a ce que fait l'analyse en composante principale. Quand vous avez une sorte de demi-lune comme ça, ou de fer à cheval, ou vous l'appelez comme vous voulez, et que vous faites une analyse en composante principale là-dessus, vous allez à un moment écraser, vous allez obtenir un résultat comme ceci. Bon, vous allez dire, c'est peut-être pas très grave, mais malgré tout, des points qui étaient intuitivement loin dans l'espace d'origine vont se retrouver quelque part ici, probablement très proche. Si vous déchirez, oui voilà, j'ai une illustration. Si vous déchirez, vous avez exactement le contraire. Vous avez des points, vous déchirez ou déroulez dans ce cas-ci, vous avez des points qui étaient proches dans l'espace de départ, qui se retrouvent loin dans l'espace d'arrivée. Et donc, le point sur lequel je voulais insister ici, c'est que déjà dans ce simple choix qui est de mettre delta ou d au dénominateur de la fonction qu'on est occupé à optimiser, en fait, on a un choix d'utilisateur. Il n'y a personne qui peut vous dire que déchirer, c'est mieux que écraser. C'est vraiment une façon de voir les choses et il y a certaines données pour lesquelles c'est plus intelligent de faire l'un et d'autres données pour lesquelles c'est plus intelligent de faire l'autre. Et ça, c'est en rapport, je dirais, avec le transparent où je montrais qu'il était très difficile d'évaluer la qualité d'une projection. Et bien, tout simplement parce que suivant le cas, il y a des choses qui sont plus évidentes d'un côté ou plus évidentes de l'autre. L'avancée numéro 2 dans ce domaine en termes chronologiques, ça a été de se rendre compte de ça et de se rendre compte qu'il faut un compromis, le compromis qui est implémenté ici par lambda 1 moins lambda, donc quelque chose qu'on pondère, un compromis entre un critère qui va dépendre des distances dans l'espace d'arrivée, un autre des distances dans l'espace de départ, et qui fait qu'il y en a un qui permet ce qu'on appelle les extrusions, c'est-à-dire des points qui étaient proches, qui s'éloignent quand on projette, et l'autre qui permet les intrusions, c'est-à-dire en gros des écrasements. Et tout ça est un compromis à ajuster, et il n'y a rien à faire, c'est l'utilisateur qui doit prendre un point de vue sur ce compromis. Alors, la dernière chose, et puis je vais peut-être m'arrêter là dans les détails techniques, c'est dire que, en fait, on a raté pendant plusieurs dizaines d'années, on a raté une grande idée qui est en fait très simple et qui est de dire que si on veut dérouler un rouleau, si on avait eu l'idée de mesurer la distance entre ce point-là et ce point-là, non pas en ligne droite, ce qui est stupide quand on voit ce dessin-là, mais qu'on avait eu l'idée de la mesurer le long du rouleau, eh bien quand on va dérouler le rouleau, cette distance-là qui est mesurée en noir, elle va être parfaitement respectée. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est un exemple évident, ça n'arrive jamais dans la réalité et tout. Oui, soit, mais n'empêche que c'est plus proche de la réalité que de mesurer quelque chose directement en ligne droite. Alors ça, c'est l'idée des distances curvilignes, géodésiques, vous les appelez un petit peu comme vous voulez. Et depuis, en fait, qu'on voit les problèmes d'analyse de données, enfin, on a une certaine classe de problèmes d'analyse de données comme étant des problèmes de graphes, eh bien, je passe les détails techniques, mais on a des moyens techniques pour mesurer très facilement, enfin relativement facilement, des distances comme ceci. Alors, pas de façon exacte, de façon approchée, mais on a des outils qui permettent de mesurer ces distances. Et en gros, il suffit d'aller mettre ces distances là à la place du delta, à la place des distances que l'on mesure dans l'espace de départ. Il suffit de remplacer ça par ce qu'on appelle les distances curvilly pour que tout d'un coup, toutes ces méthodes fonctionnent beaucoup mieux. Et si on résume, donc là, si on résume un petit peu tout ce dont j'ai parlé pour le moment, eh bien, vous avez les méthodes linéaires, les méthodes non linéaires qui sont pondérées soit par les distances dans l'espace de départ, soit dans l'espace d'arrivée. Okay, ça, c'était un petit peu les méthodes dont j'ai parlé au début. Et puis, si vous remplacez chaque fois la distance delta par cette fameuse distance curvilly, eh bien, vous avez une autre colonne qui parle d'autres algorithmes. Et ici, vous avez les noms absolument incompréhensibles et qui ne suivent aucune logique, le nom de six grandes classes de méthodes qui implémentent un petit peu tous ces critères. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, je dirais presque par définition, une méthode linéaire, c'est moins bien que des méthodes non linéaires, parce que c'est un cas particulier, parce qu'on sait faire beaucoup moins de choses avec ces méthodes, mais n'empêche, c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en œuvre, parce qu'ici, vous n'avez que des calculs algébriques, vous n'avez que de l'algèbre linéaire à mettre en œuvre. Ici, vous avez de l'optimisation non linéaire. Donc, j'irais a priori, si vous cherchez la performance couplée à la difficulté, vous allez dans le bas à droite du tableau. Si vous cherchez des performances relativement moins bonnes, mais une facilité, ben vous allez plutôt dans le haut du tableau. Et c'est aussi pour ça qu'il existe plein de méthodes différentes et qu'il est très difficile de dire ben, cette méthode-là, c'est meilleur que celle-là, ou c'est moins bon que celle-là, ou c'est meilleur que celle-là. Ben non, parce qu'il y a un peu tous les arguments qui entrent en ligne de compte, y compris la difficulté et qui est liée au temps calcul et aux possibilités de convergence des algorithmes dans ce genre de choses. Alors, je crois que cette fois-ci, je suis arrivé au plus ou moins au bout de mes, oui, ça je l'ai déjà dit, de mes 45 minutes. Alors, j'avais quelques transparents qui parlaient, mais c'est relativement technique et je dirais ça n'apporte rien au débat ici, donc je comptais de toute façon les passer, sauf si j'avais vraiment beaucoup de temps à ma disposition. Mais donc, j'avais quelques transparents qui parlaient d'une sorte de cadre unificateur pour pouvoir mesurer les performances des méthodes. Donc, ce qui va vraiment à l'encontre de ce que je disais il y a quelques minutes, qui était de dire ben, il y a plein de points de vue qu'on peut prendre, des points de vue différents qu'on peut prendre lorsqu'on veut mesurer les performances. Mais malgré tout, je dirais techniquement, il y a moyen d'unifier ces points de vue et on voit en fait que toutes les mesures se ramènent à une grande matrice qu'il y a moyen de définir et sur laquelle on peut avoir des vues différentes. Donc, on regarde un peu ce qui est en haut à gauche de la matrice, ou bien on regarde toute la matrice, ou bien on regarde que la diagonale, et en fait on a des vues différentes des performances d'évaluation de ces méthodes. Donc voilà, je voudrais simplement que vous sachiez que même si la problématique de l'évaluation des performances est vraiment réelle et elle est vraiment compliquée, mais il y a des travaux qui se font dans ce sens-là et qui montrent que quand même on a des outils très très objectifs à mettre en œuvre, mais qui nécessitent toujours un point de vue d'utilisateur. Par exemple, qui nécessite toujours le choix entre ben, ce dont je parlais tout à l'heure, les intrusions ou les extrusions. Alors je crois que je peux passer justement ceci. Et en arriver à la conclusion, eh bien voilà, la conclusion, c'est que quand on veut faire de l'analyse de données, eh bien on a besoin très souvent de réduire la dimension parce que on est très souvent dans des espaces de données dont la dimension ne permet pas la mise en œuvre de moyens simples, de moyens classiques d'analyse de données. Alors la réduction non linéaire de dimension, donc le NLDR, c'est un des outils que l'on a à notre disposition pour faire ça. C'est de loin pas le seul parce qu'il y a plein d'autres techniques qui permettent aussi de réduire la dimension mais qui sont un tout petit peu moins orientées visualisation. Alors il y a un certain nombre de messages derrière, mais peut-être que si je devais en mettre un en avant, c'est que j'ai raconté pendant 45 minutes qu'il fallait se tourner vers des méthodes non linéaires parce qu'elles sont de façon générale plus performante que les méthodes linéaires, mais par contre je hais chaque étudiant qui applique directement des méthodes non linéaires et qui n'essaye pas d'appliquer d'abord la méthode linéaire, parce que malgré tout dans certains cas et dans un grand nombre de cas ça fonctionne très bien, et comme c'est beaucoup plus simple, c'est évidemment la première étape qu'il faut mettre en œuvre. Donc quelqu'un qui veut faire de la visualisation de données et qui n'essaye pas au moins de le faire par analyse en composante principale ou une autre méthode assimilée d'abord, ben, je crois que c'est vraiment une erreur méthodologique assez importante. Voilà, je termine ici. plus ou moins dans les temps.
Merci.